Accès libre.
Bonjour à tous, c'est la dernière, l'avant-dernière que dis-je, l'avant-dernière émission avant la fin de la saison. Es-tu triste, Luc?
Ben non, parce qu'on va passer l'été ensemble à la même heure les lundis.
C'est vrai.
Je sais même pas pourquoi t'en parles.
Mais il y a quand même une pause de 3 semaines, c'est pour ça que j'en parle.
Parce que toi, tu t'en vas.
Exact. Mm-hmm. Bon, bref, aujourd'hui, il y a plein de sujets, comme d'habitude. On parle avec Frédéric Charpentier, un des deux protagonistes de Point de vue, sur Ami Télé de Longueuil pour parler transport. On nous donnera des trucs aussi pour faire des rencontres amoureuses, quelle que soit notre condition. Un nouveau programme d'accessibilité aux petits établissements est sorti la semaine dernière, tout frais, tout neuf.
PEA.
C'est ça, Franck Bouchard nous le présentera. Et la semaine dernière, on s'est entretenu avec la ministre Karina Gould des Institutions démocratiques du Canada pour parler de la modernisation du projet de loi sur les élections. Alors voilà, tout de suite, on s'entretient avec Émilie de Sportcom pour tout savoir sur les dernières performances en parasport. Vous êtes sur Canal M, la radio de Vuzévoix.
Salut Madame Bouchard, la bonté!
Bonjour!
Merci d'être là. Je savais que ton sourire nous rendait ce lundi plus agréable. Hey, il y a plein de choses qui se sont passées cette semaine. Il y a du basket, de la natation, du goalball.
Oui, il s'est passé plein de choses. Ça doit être pour ça que je transparais de joie. Puis en plus, il fait beau.
Et ça doit être pour ça qu'on t'appelle également.
Et voilà.
Tu veux commencer par la Suède, l'Allemagne ou la France?
Un beau tour du monde. Ouais. Oui, un beau tour du monde. Allons-y en Suède pour commencer. Tiens, le championnat du monde de goalball, où nos équipes féminines et masculines canadiennes étaient en action. Mm-hmm. Alors, on avait deux athlètes au sein des équipes canadiennes, Nancy Morin chez les femmes et Bruno Haché chez les hommes. On peut pas vraiment parler de contre-performance chez les femmes, mais quand même une petite déception parce qu'il y avait quand même quelque chose de très important en lice, à part un titre ou une médaille au championnat du monde, mais aussi une qualification en vue des Jeux paralympiques de Tokyo.
Fallait faire le podium pour avoir se laisser passer.
Exactement. Et les Canadiennes ont fini quatrième. Donc, un peu crève-cœur.
Ouais, ouais.
Mais c'est pas leur seule chance. Hein. Ils vont avoir une autre chance à faire, à prendre pour leur qualification pour Tokyo dans un an, dans un peu plus d'un an, en fait, dans une qualification paralympique au Pérou. Donc, c'est pas terminé. Mais c'est tout le temps le fun quand c'est plus connu d'avance puis qu'on a plus de temps pour se préparer. Ouais. Mais quand même, tout est encore
possible
à faire pour elles.
Mais pour avoir regardé les deux derniers matchs, c'est-à-dire le match de quart de finale et de demi-finale. Bon, le quart de finale, ils l'ont gagné en prolongation contre le Japon. Donc, c'était un petit peu par la peau des dents. Et en demi-finale, ils étaient pas sur le même terrain. Là. Ils ont perdu quoi? 7-2, je crois. Et là-dessus, il y a eu une barre transversale, un poteau de la part des Brésiliennes. Ça aurait pu facilement finir 9-10-2. Là. Alors, on peut voir la quatrième place comme, disons, chose normale dans le contexte.
Ben, un petit réveil aussi à savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à apprendre, à s'entraîner en vue de la suite, parce que c'est sûr que j'imagine que l'équipe canadienne doit viser un podium pour les Jeux paralympiques. Alors, ils vont avoir d'autres chances, d'autres tournois pour pouvoir affronter des équipes. C'est sûr que quand on n'affronte pas beaucoup fait pas beaucoup de compétitions internationales, c'est un peu difficile de s'ajuster, c'est un peu plus difficile de connaître les forces et les faiblesses des autres compétitrices, des autres nations. Alors, c'est sûr que c'est un coup en action dans de la sorte là, des championnats du monde. C'est une bonne façon en plus de se réajuster, connaître les nouvelles stratégies, les nouvelles techniques de tout le monde, puisque c'est un sport qui évolue puis qui change. Hein?
J'ai pas été chanceux dans les deux matchs, j'ai pas pu voir Nancy.
Mais non, Nancy, elle n'a pas été très utilisée pendant le tournoi de la part de l'entraîneur. Juste une décision là, de l'entraîneur, là, assurément, de ne pas l'avoir utilisée. Malheureusement, pour elle, c'est des choses qui arrivent. Hein?
Ben oui. Pour les gars, ça a été plus difficile.
Les gars, ça a été plus difficile. Ils n'ont même pas passé la phase préliminaire, en fait. Ils ne se sont même pas qualifiés pour les quarts de finale. Ils ont terminé la ronde préliminaire avec une fiche de 2 victoires seulement. Donc, ils ont terminé 6e de leur groupe. Peut-être un tournoi à oublier de leur côté aussi.
Ils ont donné beaucoup de buts.
Ouais, vont devoir se réajuster. Puis de mon analyse que j'en fais, vraiment des matchs internationaux, là, ça devrait les. Il faudrait qu'il y en ait plus. C'est sûr qu'on est au Canada, on est un petit peu plus éloigné des nations européennes ou d'autres nations pour faire la compétition, mais je pense que ça les aiderait là, à pouvoir améliorer leur jeu un peu, d'avoir de la compétition.
Ce que je remarque en tout cas, c'est qu'une des forces, c'est le Brésil. Troisième chez les femmes, premier chez les hommes. Ou c'est l'inverse en fait, je pense. C'est peut-être l'inverse. Mais deux podiums pour le Brésil, donc ça se passe bien de ce côté-là. Tu veux nous parler de natation. Aurélie a eu beaucoup plus de plaisir qu'à Gulf Coast, entre autres une marque mondiale pour Mme Rivard.
Bien sûr, puis c'est une drôle période de l'année quand même. Aurélie, elle enchaînait les séries mondiales, là, c'est trois fins de semaine d'affilée là, où elle était en compétition. Elle était en Italie il y a trois semaines, ensuite elle a fait un arrêt à Sheffield et là, c'était à Berlin ce week-end. Et malgré tout, un bon build-up pour elle puisque ça s'est consolidé en fin de semaine avec deux records du monde à la même distance, deux fois plutôt qu'une. Donc, elle a amélioré sa propre marque mondiale aux 200 mètres libres chez les S10. Là, son ancienne marque à elle, c'était 2 minutes 10 secondes 98 centièmes. Elle est ensuite baissée lors des préliminaires à 2 minutes 10 57. Et là, elle a retranché presque 2 secondes à ce chrono-là en finale avec 2 minutes 8 64. Alors, pour elle, elle pensait être capable d'améliorer sa marque mondiale, mais de façon aussi tranchante, c'est une surprise.
Est-ce un record?
Oui, c'est un record du monde.
Oh, okay.
Oui.
Deux dans la même journée. Et ce que je lisais en regardant les communiqués et ce que ton collègue a pu tirer d'elle, c'est qu'elle disait que la piscine était rapide.
Oui, c'est une piscine très rapide à Berlin, donc c'est sûr que ça aide à faire des bonnes performances, évidemment, mais de le faire là après trois week-ends, ben au troisième week-end de compétition, fallait avoir encore d'énergie pour pouvoir se rendre jusque là. Ouais. C'est vraiment un bon build-up pour elle, mais je pense qu'elle y a goûté un petit peu. C'est un 200 mètres libre, hein, c'est un peu long l'avoir nagé dans la même journée parce qu'elle s'est sentie plus fatiguée pour ses courses suivantes. Mais on peut quand même mentionner qu'elle a ensuite remporté la médaille de bronze au 100 mètres libre le lendemain,
si je me souviens bien.
Ouais, puis avec un chrono là, sous la barre de la minute là, en 59,85. C'est pas un record personnel pour elle, mais elle s'en approche. Elle dit qu'elle est passée sous la barre de la minute comme 4 ou 5 ou 6 fois au total dans sa carrière. Là. Alors, c'est vraiment une bonne performance.
Et ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a gagné le 100 mètres est plus hypothéquée physiquement, mais c'est grâce à la classification et au coefficient de difficulté. Donc, c'est bien de voir que tu peux être plus handicapé et gagner. Il y a comme de l'équité dans ce système-là.
Exactement. Ouais. C'est une belle façon de faire des classements. Comme les séries mondiales en paranatation, c'est quand même un événement assez récent. Je pense que ça a 2 ou 3 ans d'histoire seulement. Alors, regrouper des athlètes compétitifs dans chaque catégorie, chaque classification, c'est un peu plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est qu'on regroupe tous les athlètes de toutes les classifications, toutes les classes différentes dans la même catégorie. Et là, c'est un système de pointage selon le temps qu'on fait, selon le record du monde de notre catégorie. Qui émène un système de pointage et après ça, on fait le classement final avec ça. Alors, effectivement, un athlète de catégorie S7, admettons, qui a un handicap un peu plus lourd qu'Aurélie, même si elle fait un chrono plus rapide, Aurélie, elle peut être dépassée par une compétitrice un peu plus lourdement handicapée, mais moins rapide.
Ouais, malheureusement, on n'aura même pas le temps de parler de basketball et je ne pourrai pas expliquer. Jean-Sébastien, on ira prendre un café, je t'expliquerai qu'est-ce qu'une piscine rapide.
Moi aussi, je veux savoir.
Ben oui, Jean-Sébastien, il dit « Coudon, c'est-tu la piscine qui nage? » Il disait ça dans mes écouteurs et je devais rester sérieux en vous écoutant, Madame Bouchard, la bonté. Merci beaucoup, Aurélie, oui. Émilie, c'est gentil.
Malheureusement, je ne suis pas championne paralympique, mais je peux me faire appeler Aurélie quand même.
Émilie sera avec nous à M l'été.
Tout à fait. On la garde tout l'été.
Oui, ouais. Ben, à bientôt alors.
À bientôt.
Oh là, je vis de mort pendant qu'il n'est pas trop tard. Moi j'arrête là pis je sors dehors, le soleil brille encore. Wow là, je vis de bord pendant qu'il est pas trop tard. Moi j'arrête là pis je sors dehors, le soleil brille encore. J'ai fermé mes réseaux sociaux, ça m'engourdit le cerveau. J'suis tanné de voir la face de ton chien, ton humeur du matin. J'ai vendu ma télévision parce que j'trouve le temps long. J'ai l'impression d'être un robot qui bouffe tes commerciaux.
Wow,
là, je vais dehors pendant qu'il n'est pas trop tard. Moi j'arrête là, puis je sors dehors, le soleil brille encore.
J'ai éteint la radio depuis que ma langue est un ratio. Toujours les mêmes chansons qui tournent sur les mêmes stations. J'ai chiffonné le journal, je tenais de voir les scandales. Mais au moins ça me fait du papier pour partir le foyer.
Wow, là, je vais dehors pendant qu'il n'est pas trop tard. Moi j'arrête là, puis je sors dehors, le soleil brille encore.
J'ai fermé le téléphone, il paraît qu'on m'espionne. J'aime mieux parler aux petits oiseaux, quoi qu'ils ont peut-être des micros.
Wow, là, je vais dehors pendant qu'il n'est pas trop tard. Moi j'arrête là, puis je sors dehors, le soleil brille encore. Voilà, je vais dehors pendant qu'il n'est pas trop tard. Moi j'arrête là, puis je sors dehors, le soleil brille encore. Voilà.
Les Tireux de Roche, groupe de la Mauricie avec Wola. Tommy Théberge était avec nous. Tommy, qui est conseiller municipal du côté de Longueuil, qui est également VP, vice-président du réseau de transport de Longueuil. Bonjour, Tommy.
Bonjour, M. Fortin. Comment allez-vous?
Ça va très, très bien. Tu es conseiller municipal, mais surtout VP du RTL depuis le mois d'avril. Donc,
exactement.
C'est nouveau. J'ai lu que ça n'a pas été simple, mais on ne reviendra pas là-dessus parce qu'on va manger tout le temps qu'on a sur l'entrevue, mais ça n'a pas été simple. Vive la
on
politique.
On pourra en parler dans un autre contexte, des choses pas simples en politique.
Oui, c'est ça, tout à fait. Mais ce que j'aime de ta nomination, c'est que tu le prends, le RTL.
Oui.
Tu l'utilises, oui. Tu le connais, tu as avantage à le voir progresser, puis tu côtoies oui. les usagers également.
Ben, pour moi, c'est un honneur de joindre l'équipe du RTL. Comme vous l'avez dit, M. Fortin, non seulement je suis un usager, j'utilise l'autobus au quotidien, je suis une personne handicapée visuelle mm-hmm. aussi. Donc, c'est certain que pour moi, de pouvoir travailler, de mettre l'épaule à la roue, ben c'est important. Puis maintenant, ben d'être sur le conseil d'administration, de travailler en étroite collaboration aussi avec l'équipe RTL, ben ça va permettre de faire avancer des choses et de sensibiliser davantage.
Et si vous aviez une note entre 1 et 10 pour l'accessibilité du réseau de transport Longueuil, ce serait quoi, M. Théberge?
je ne m'aventurerais pas dans une note de 1 à 10. Moi, ce que je vous dirais pour avoir pris le transport en commun dans beaucoup de villes dans le monde
oui.
Et de l'utiliser au quotidien, le réseau de transport de Longueuil, c'est un exemple au niveau de l'accessibilité, au niveau de l'effort, au niveau de la mesure. Mais comme vous savez, rien n'est parfait dans ce beau monde, mais RTL travaille toujours pour améliorer les services et d'en proposer des nouveaux aussi qui vont répondre aux besoins des personnes ouais. handicapées visuelles.
Alors, il y a combien de lignes accessibles?
Bien, actuellement, si on fait un petit portrait rapide de RTL, vous savez, par année, c'est au-dessus de 100 000 passages qui se font sur les différents 83 lignes du réseau de transport de Longueuil. Puis, de toute cette masse de lignes-là, si on veut, le RTL travaille à les rendre accessibles. Actuellement, sur les, je pense qu'il y a au-dessus de 3300 arrêts d'autobus, mais 57% de ces arrêts-là sont considérés comme étant accessibles. Évidemment,
d'accord.
On vise 100%. Et,
ça veut dire quoi, Tommy, un arrêt accessible?
Un arrêt accessible, ça veut dire que l'autobus, quand elle se présente sur le coin de rue, ben évidemment, les autobus sont équipés de rampes, donc c'est assez facile pour les gens d'embarquer, débarquer. C'est ce qu'on entend. Évidemment, il y a beaucoup de petites mesures simples comme tout ce qui est de l'accompagnement, la formation des chauffeurs, tout ça permet justement d'aider les usagers à faire un meilleur passage.
Puis, et alors, un arrêt qui n'est pas accessible, si c'est l'autobus qui a la rampe, qu'est-ce que ça donne?
Ben, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile au niveau
pour
de l'accès. Exactement.
D'accord.
Mais je vous dirais que c'est un effort qui se fait au quotidien, puis tranquillement, on s'en va dans la bonne direction. Souvent, il y a des petites barrières architecturales, mais il n'y a rien d'impossible. Fait qu'on avance. Je peux vous donner un exemple. Récemment, on a inauguré le minibus qui nous amène à la plage de Longueuil. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, Longueuil, il y a une magnifique plage. Et maintenant, il y a un débarcadère qui est installé l'année dernière, qui a été inauguré. Donc, ça en est un exemple où il y avait une barrière architecturale. L'autobus arrivait, puis les personnes qui utilisaient un fauteuil roulant à ce moment-là n'avaient pas un débarcadère accessible pour pouvoir avoir accès après ça au site. Donc, ça en est un exemple de barrière architecturale, mais on travaille justement pour atteindre le 100%, bien sûr.
D'accord. Et l'application Chrono aussi, ça facilite le transport
oui,
des personnes?
Oui, ça, c'est beaucoup de RTL. Vous savez, souvent, quand on se déplace, planifier notre trajet, on se fie sur l'horaire, mais parfois, il arrive pour toutes sortes de situations, soit les conditions météo ou autres, des embouteillages, des fois, on les vit aussi, ben, les autobus prennent un peu de retard. Donc, Chrono, c'est une application qu'on peut télécharger sur notre téléphone intelligent. Puis, actuellement, il y a 9 lignes d'autobus sur les que l'on peut suivre en temps réel. Donc, vous allumez votre application, puis vous pouvez voir où est rendu l'autobus, donc, et anticiper évidemment son arrivée. Donc, s'il est un petit peu en retard ou s'il est à l'heure, mais à ce moment-là, on sort, puis l'autobus arrive juste à temps, puis à ce moment-là, on peut embarquer.
Sais-tu si l'application est accessible?
L'application, visuellement, pour l'utiliser, je vous dirais que c'est bien.
Okay.
Au niveau de VoiceOver, j'ai pas eu l'occasion encore de le tester. J'ai un petit doute, mais les tests vont être faits, puis évidemment, dans une optique de rendre ça accessible.
Il n'y a pas encore d'annonce, hein, je pense. Moi, quand j'ai quitté Longueuil il y a 4 ans, là, on n'était pas encore aux arrêts annoncés, mais Montréal non plus à l'époque. On en est où de ce côté-là? Est-ce que les projets...
Ça l'avance tout doucement.
Okay.
Éventuellement, effectivement, il va y avoir les annonces vont être faites dans les autobus. Il y a aussi un nouveau projet, c'est un projet pilote. Il y a ce qu'on appelle à différents arrêts, il y a des horaires. Donc, les horaires sont affichés où on attend l'autobus, évidemment.
Mm-hmm.
Donc, il y a 6 endroits actuellement qui sont pourvus de ces équipements, qui marchent à énergie solaire, donc sur lesquels on peut voir l'heure d'arrivée des autobus, puis éventuellement, l'information va être affichée aussi sur ces panneaux-là. Donc, les gens vont pouvoir y avoir accès sous peu. Donc, ça devrait se déployer si le projet pilote est concluant. Jusqu'ici, les panneaux ont survécu à l'hiver. Donc, c'est sur le bon chemin. On va voir.
Est-ce que c'est le projet Mon Compagnon?
Non.
Parce qu'il nous reste une petite minute pour parler de Mon Compagnon.
Ben, Mon Compagnon, c'est beaucoup aussi de RTL qui est fait en collaboration avec la commission scolaire Marie-Victorin, puis l'école Gérard Filion. En fait, c'est que parfois, vous savez, il arrive pour une certaine clientèle où c'est plus qui pourrait prendre le transport régulier, mais le transport adapté, c'est davantage sécuritaire pour eux. Ben, Mon Compagnon, dans le fond, ça va s'adresser à cette clientèle-là. Donc, ils vont pouvoir avoir un accompagnement en temps réel. Au moyen d'une application cellulaire. Donc, l'usager, il va être guidé dans son parcours pas à pas. Puis, il y a des indications, soit écrites ou des schémas ou à la voix qui vont lui être communiquées pour pouvoir atteindre la prochaine étape dans son parcours. Puis, en temps réel, au niveau du service à la clientèle de RTL, on va pouvoir suivre cette personne-là puis communiquer avec elle, évidemment, s'il fait fausse route. Donc, c'est quelque chose d'assez avant-gardiste.
Ouais, ouais.
On devrait voir ça à la rentrée, à l'automne, si tout va bien. Donc, évidemment, c'est un projet pilote auprès d'un certain échantillon, donc on va voir aussi, mais c'est un des beaux pas en avant pour pouvoir aider davantage les personnes handicapées lorsqu'ils doivent faire des déplacements avec RTL.
D'accord, c'est super intéressant. On s'en parlera peut-être probablement à l'automne. Merci,
Monsieur
Théberge. Donc, je rappelle, vous êtes vice-président du réseau transport de Longueuil. Un bon coup pour tout le monde. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Salut.
On parle encore de pacte, on s'est juste utilisé. Et le mal qui s'impose au fond n'est pas ce qu'on s'est donné. Les lumières de nos endroits, ceux qui feignent de briller. Je m'y plonge et j'y somnole, enfin, ne plus me réveiller. Les gens tournent autour de moi, ne m'ont pas vu m'endormir.
au son des basses qui résonnent dans mon tout, mon être chavire. Les amours se rencontrent enfin, alors qu'on me voit souffrir. Je rêve, je m'envole.
Sous la tension, t'as joué ta chance, ils ont joué ta chanson. Je t'ai parlé toute la nuit, j'ai pas dit grand chose. Je sais que tu penses que j'y pense, mais tu penses trop. Ok, j'ai pris l'appel et puis après, crois-moi, je suis difficile à suivre, je suis facile à perdre. L'ennui des jeunes adultes, passer la nuit seul à deux, mais disparu sans signature, je sais pas dire adieu. Je suis jamais bien loin, je suis jamais bien là. Bruxelles, Paris, Berlin, Jarbella. Traverser le monde pour essayer de remplacer un monde par un autre que j'arrive à peine à replacer. Assez, two glasses full of moonshine. Sunglasses for the moonshine. Les grands classiques, on est sous le charme. And baby, that's all I need.
Désolé pour les amateurs de Loud et de Cœur de Pirate, mais c'est dans la nuit si jamais vous voulez la ouïr au complet. Ouïr avec un tréma.
Et tout de suite, nous parlons à Sonia Boucher, intervenante en santé sexuelle spécialisée auprès des personnes en situation de handicap. Sonia, vous avez voulu nous parler des rencontres en général ou en particulier. Qu'est-ce que vous voulez, par quoi voulez-vous qu'on commence?
Mais rencontre, on parle de date?
Oui, oui, okay, moi, je l'ai compris comme ça. N'est-ce pas,
oui, alors bonjour à vous deux, bonjour Anne-Marie, je suis contente d'être avec vous.
Oui, pas malade cette fois-là, Sonia.
Oui, c'est ça, excellent. Oui, d'ailleurs, on s'est parlé vendredi, tu as une plus belle voix, effectivement.
Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire sur les rencontres amoureuses?
Alors, ce que je veux surtout aborder, c'est les obstacles, les difficultés dans la rencontre amoureuse pour les personnes en situation de handicap, parce que c'est un sujet qui revient souvent chez moi en relation d'aide. Donc, les gens m'appellent souvent et m'abordent pour me parler de cette difficulté-là particulière à rencontrer. Mm-hmm. Donc, oui, on parle de date, là, pour préciser.
Ouais.
Donc, partir à la recherche d'un partenaire amoureux ou sexuel. C'est pas évident.
C'est sûr, oui. il vous appelle et j'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Comment faire? Qu'est-ce que je dois faire? Où dois-je aller?
Ah oui?
Exactement.
Ils font ça.
Exactement.
Parce que là, ça devient une agence de rencontre, Sonia Boucher.
Donner des trucs.
Oui, je peux donner des trucs, des conseils, mais je ne mets pas les gens en relation. Là.
Mais je peux comprendre, Sonia, bon, la difficulté comme personne aveugle, on ne peut pas nécessairement d'abord voir si la personne est attrayante selon nous, si elle nous regarde, si elle sourit, tout ça. Mais pour les autres personnes qui vivent d'autres types de situations, peut-être nous aider un peu à comprendre leurs difficultés.
Oui, effectivement, je veux préciser qu'il y a plusieurs sortes de handicaps et les difficultés ne sont pas toujours pareilles. Pour les personnes aveugles, juste préciser que d'emblée, elles ont déjà cette capacité-là à décider si la personne est une personne qui lui convient, avec qui elle va bien s'entendre, même sans la voir. Donc, est-ce qu'elle la trouve attirante sans la voir? Ça, c'est quelque chose qu'ils sont déjà capables de faire. Maintenant, rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça, c'est quelque chose de plus difficile et c'est une difficulté qu'on rencontre pour tout le monde. Hein?
Oui,
c'est pas tout le monde qui a l'habileté là, à rencontrer quelqu'un. On peut rencontrer des gens qui sont célibataires depuis plusieurs années et qui ne savent pas comment rencontrer, par exemple.
Mm.
Maintenant, la solution que moi je vois, c'est une solution qui doit se faire en amont, c'est-à-dire dès que les personnes en situation de handicap vivent le handicap. C'est une question d'éducation et ça revient souvent dans mes chroniques quand je parle avec vous deux ou avec Benoît. C'est-à-dire que les gens n'ont pas cette habileté sociale-là à aller vers l'autre, à se présenter selon ses propres intérêts, ses propres capacités, finalement à se montrer sur son meilleur jour.
Ouais.
Et ça, c'est une série d'apprentissages. C'est pas juste comment rencontrer quelqu'un pour une rencontre amoureuse, mais ça fait partie des habiletés sociales à développer. Par exemple, je vois, c'est un exemple parmi d'autres, là, des personnes en situation de handicap qui vont pas mettre leur vraie photo de profil, par exemple. Mm-hmm. Ou qui vont montrer juste une partie. Puis après, évidemment, quand il y a la rencontre, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas ce à quoi l'autre personne s'attend.
C'est sûr. Et donc, la question, est-ce qu'on doit parler de son handicap à la première rencontre, voire avant, en amont?
Moi, je pense que oui, parce que selon moi, l'authenticité est toujours gagnante.
Oui.
C'est-à-dire, pour bâtir une relation sur une vaseline, même si c'est une rencontre sexuelle à court terme, ça va être beaucoup plus efficace si la personne est au courant de nos limites, par exemple.
Et on perd moins de temps. Non, mais c'est vrai, dans le sens, tu vas quelque part, la personne te voit de loin, elle fait un 180, tu le sais pas, elle te plante là, tu perds une soirée, c'est dur sur la confiance, je veux dire, tellement d'énergie et de temps perdu à cause de ça, souvent.
Effectivement, et là, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que les personnes accumulent des échecs des gains.
Ben oui.
Et là, plus qu'on vit d'échecs, surtout dans les relations interpersonnelles, plus que c'est difficile après d'entrer en contact avec des gens. Donc, pour éviter les échecs, c'est important, selon moi, d'être le plus authentique possible.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui te représente? Ça ne donne rien de faire semblant que tu es plus diplômé, que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'humour, si en fait, tu n'en as pas du tout. Donc, vraiment d'y aller avec tes vrais intérêts et ce que tu connais, ce que tu aimes, pour aller à la rencontre de l'autre personne. Et il y a tout aussi un apprentissage au niveau de la santé sexuelle que souvent les personnes en situation de handicap n'ont jamais eu. Ça a souvent été tabou dans leur vie.
Ah oui.
Donc, par exemple, et la prostitution, c'est un autre sujet, mais si la personne, pour avoir des rencontres sexuelles, doit toujours payer son partenaire, ben, elle doit réaliser que le partenaire est là parce qu'il est payé, pas parce qu'elle l'aime bien. Donc, c'est tout un apprentissage à faire. Aussi.
Parce que parfois, c'est pas compris, ça?
Souvent.
Ah oui, OK.
Souvent. C'est mon amie, elle vient toujours me voir, elle est super fine, elle m'aime beaucoup. Ouais, mais ça te coûte 150 pièces à chaque fois.
Ouais, puis au final, on cherche tous un peu d'amour et de la tendresse, donc c'est vrai qu'on a envie d'évacuer l'aspect monétaire.
Non, mais... Mais si je vais chez ma coiffeuse, je comprends qu'elle le fait parce que je la paye.
Oui.
Oui, mais si ta coiffeuse vient chez toi, puis elle reste une demi-heure de plus, puis elle dit que t'es super fin, puis en plus, ça te flatte.
Je vais payer plus cher, Sonia.
Le pourboire.
Plus cher, mais ça se peut que tu aies un doute sur sa sincérité.
Des fois, on veut croire ce qu'on veut.
Si c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé dans la vie.
Je comprends.
Donc, l'éducation, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler pour faciliter les rencontres. Ça, c'est un point. D'autre part, c'est sûr que pour les personnes, c'est mieux d'aller sur les sites déjà de rencontres de personnes en situation de handicap.
Ah oui!
Et c'est sûr que beaucoup de gens vont dire « Ben moi, je veux pas une fille en fauteuil parce que je suis en fauteuil. » Et je le comprends bien. Mais par contre, on dit que les couples se ressemblent pour plus longtemps. Hein?
Mm-hmm.
Et c'est vrai parce que la personne va mieux nous comprendre, mieux comprendre nos difficultés. Maintenant, je dis pas que c'est impossible. Un bipède, là, comme certains de mes amis nous appellent.
Sonia, je t'arrête. Oui? Anne-Laure, tu connais notre feuille de route?
Oui, ben oui.
On a-tu le temps de parler à Sonia?
Mais on va lui reparler aussi à Sonia, probablement cet été, on va voir.
OK,
mais
parce que moi, là, ça m'intrigue et je suis certain qu'on pourrait même faire une demi-heure là-dessus.
Ouais, c'est
excusez-moi, je m'en bats.
Non, c'est correct,
mais
c'est correct.
Merci beaucoup,
mais là,
Sonia, il va falloir qu'on, qu'on
le,
se reparle
l'ordi
plus tard.
Va vous couper.
On va faire une courte pause, puis on va revenir avec Karina Gould, la ministre des Institutions
démocratiques. On vient, Accès libre.
Changer en amour notre amourette, il s'en serait pas fallu de beaucoup. Mais ce jour la Vénus était distraite, il y a des jours où Cupidon s'en fout. Il y a des jours où Cupidon s'en fout. Du coche où elle sent émousser dans le bout les flèches courtoises qui nous décochent. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Consacrant à d'autres imbéciles, il pas l'heure de s'occuper de nous. Avec son arc et tous ses ustensiles, il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Tenter sans lui d'ouvrir la fête. Sur l'herbe tendre on s'est roulé, mais vous avez perdu la verte et pas la tête. Il y a des jours où Cupidon s'en fout. Il y a des jours où Cupidon s'en fout. Licence, le cœur hélas n'était pas dans le coup. Le feu sacré brillait par son absence. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. La marguerite, elle tombe à 20 fois sur pas du tout. Et notre pauvre idylle a fait faillite. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Quand vous irez au bois, comptez fleurettes, jeune galant, le ciel soit avec vous. Je n'eus pas cette chance et il regrette. Il y a des jours où Cupidon s'en fout. Il y a des jours où Cupidon s'en fout.
L'honorable Karina Gould, ministre des Institutions démocratiques au sein du gouvernement fédéral, pour nous parler du projet de loi sur la modernisation des élections, le projet de loi C76, qui a été déposé le 30 avril dernier. Bonjour, Madame Gould.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pouvez-vous nous dire depuis quand date la dernière modification de cette loi C76, pardon?
C'était introduit dans la Chambre il y a un mois, et c'est avant le comité maintenant, mais c'est depuis la dernière élection, en 2014, que nous avons fait des améliorations à cette loi d'élection.
D'accord. Et cette fois-ci, donc, vous apportez beaucoup de facilitations pour les personnes en situation de handicap, notamment des électeurs, des candidats. Qu'est-ce que ce projet de loi va réduire comme obstacle à la participation des personnes en situation de handicap?
Oui, bien sûr. Merci pour la question. Je suis vraiment fière de cette législation en visant à des personnes handicapées. En première, il y a un incitatif de 250 000 $ pour chaque parti politique pour faire des matériels accessibles pour les gens handicapés et aussi pour les candidats jusqu'à 5 000 $. Alors, par exemple, les candidats ou les partis politiques pouvaient prévoir le matériel avec du braille ou construire une rampe accessible pour leur oui. bureau de campagne. Et aussi, dans les débats, par exemple, d'avoir quelqu'un qui fait l'interprétation dans la langage de signes. Mm-hmm. Lorsqu'ils vont voter, les Canadiens profiteront d'heures supplémentaires le jour du scrutin, ce qui leur donnera plus de souplesse dans leurs horaires. Nous augmenterons le nombre d'heures de vote par anticipation à 12 heures par jour. Aussi, nous donnerons plus de facilité au directeur général des élections d'autoriser l'avis de confirmation d'inscription, aussi appelé la carte d'information de l'électeur comme pièce d'identité, et restitue le recours à un répondant pour établir son identité et sa résidence. Et aussi,
ça, c'était pas déjà le cas?
Non, c'était pas le cas. C'était le cas avant l'élection de 2015. Et puis, le dernier gouvernement a cancellé ces programmes-là et ces possibilités. Alors, dans ce projet de loi, c'est important parce que nous réinstituons cette pratique-là, puisque les gens, et c'est vraiment important pour beaucoup de gens qui peut-être n'ont pas de pièces d'identification typique, par exemple, une permis de conduire, puisqu'ils pourraient établir leur résidence. Alors, c'est quelque chose que nous savons, qu'il y avait à peu près 176 000 Canadiens pendant la dernière élection qui n'auront pas pu voter, puisqu'ils n'auraient pas eu l'identification suffisante.
Je constate également que vous souhaitez offrir le vote à domicile pour plusieurs Canadiens. Comment le Canadien peut-il obtenir ce droit de voter de chez lui?
Oui, bien sûr. Ça, c'est autre chose qui est important. Ça donnera le directeur général plus de flexibilité d'offrir la possibilité de voter à la maison et aussi d'avoir des bureaux de vote mobiles. Alors, que ce soit dans un endroit où habitent des gens âgés ou que ce soit. Mais ce qui pourrait faire les Canadiens, c'est que quand ça commence l'élection, faire une application, une demande seulement à le bureau de scrutin local pour avoir accès à la possibilité de voter à domicile.
D'accord. Et qu'en est-il des frais associés aux candidats en situation de handicap? Est-ce que ce sont des frais qui sont compris dans le montant de campagne, le budget de campagne?
Le fameux 5 000, je crois.
Oui, c'est au-delà. C'est au-delà. Alors, c'est quelque chose que si les campagnes veulent faire, avec ce projet de loi, si ça passe, le Parlement, qu'il aura le droit de dépenser jusqu'à 5 000. Ben, beaucoup plus, mais il pourrait faire rembourser jusqu'à 5 000 $ pour les services accessibles et les matériels accessibles. Mais autre chose qui est important, oui, c'est que pour les candidats en ce projet de loi, si ça passe, c'est que s'il y a des candidats qui ont besoin de
mesures d'adaptation,
prendre soin de quelqu'un qui a un handicap, ils pourraient dépenser leur propre argent, ça ne devrait pas être seulement des fonds levés, et ils pourraient avoir un remboursement de 90%. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que jusqu'à date, ou maintenant dans la loi actuelle, ils pourraient être un désavantage parce que leurs compétiteurs, par exemple, n'auront pas les mêmes dépenses et ils pourraient faire des dépenses sur les matériels de campagne et non sur prendre soin de quelqu'un dans leur famille. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je crois, important puisqu'on pourrait encourager tout le monde d'y participer.
Bon, vous parliez du 250 000 qui pourrait être offert aux différentes formations pour que celles-ci, que ce soit du Braille, du LSQ, bon, comment s'assurer que le 250 000 soit bel et bien investi pour les gens qui ont une limitation fonctionnelle plutôt qu'on fait des fausses factures, mais on envoie des petits dépliants imprimés dans toutes les boîtes aux lettres?
Bon, ça serait quelque chose pour les partis politiques de s'assurer. Les 250 000, c'est quelque chose que moi, comme ministre des Institutions démocratiques et notre gouvernement pense que c'est important puisque les partis politiques faisons plus de travail, faisons plus d'efforts pour inclure les gens qui ont des handicaps, soit physiques ou d'autres. Mais au final, ce serait les voteurs qui vont décider si ces ressources sont bien utilisées. Et moi, je dirais aussi que les gens devraient avoir une conversation avec les partis politiques puisqu'ils disent « ça, c'était une bonne dépense de cet argent, ce n'était pas une bonne dépense, et comment ils pourraient utiliser cet argent pour y être en plus accessible à tout le monde. »
En terminant, Mme Gourde, est-ce que vous êtes confiante que le projet va être adopté avant la fin de la session ou il y a risque que finalement... Bon, parfois, on parle de projets de loi qui meurent au feuilleton, d'autres qui sont reportés.
Moi, je suis... J'ai beaucoup de confiance qu'on aurait passé le projet de loi avant les prochaines élections. Maintenant, c'est le travail du Parlement de faire le scrutin de tous les aspects du projet de loi. C'est maintenant avant le comité du Chambre des communes. J'espère que le Sénat va avoir une réponse aussi positif au projet de loi. Je crois que pour moi, vraiment, ces aspects que nous avons parlé aujourd'hui sont vraiment importants. Mais c'est avant le Parlement. Moi, je vais faire mon parti puisque ça pourrait passer avant les prochaines élections.
Je rappelle, on était avec la ministre des Institutions démocratiques au sein du gouvernement fédéral, Carina Gould. Merci, au plaisir.
Laisse-toi tenter et tu verras.
Ariane Brunet avec Laisse-toi aimer. C'était bon. J'ai croisé Ariane hier et Non, mais c'est vrai, gros câlin. On était contents de se voir, ça faisait longtemps. Et surtout, c'est parce que je lui disais, Ariane a gagné un prix il y a quelques années et elle avait le... En fait, elle était obligée aussi, là. Mais elle devait offrir à la bourse à, disons, un organisme. Elle a choisi Visez-Voix parce qu'elle était venue ici... pour une entrevue, puis ensuite, elle a fait le tour, elle a vu les bénévoles, les studios, la dynamique et tout. Elle a été très touchée, puis encore hier, elle me disait, c'est tellement beau ce qui se fait là-bas et tout, donc voilà. Frédéric Charpentier, bonjour.
Bonjour Luc, ça va bien?
Ça va très bien, merci, et toi?
Ça va super bien.
Et Frédéric et moi, on se connaît. Frédéric est co-fondateur d'une petite entreprise de team building. Il m'a appelé pour que je fasse ma petite part là-dedans. On a déjà fait des courses pour démolir des voitures. Là, t'es un des deux protagonistes, dit-on, Anne-Laure?
Tout à fait, avec Guillaume Forêt.
Oui.
Donc, à point de vue, vous vivez plein d'aventures tous les deux.
C'est incroyable, cette aventure. C'est une aventure qu'on a vécue à l'automne dernier.
Oui.
Une aventure à moto. Où on sillonne les routes du Québec. Donc, on a parcouru des milliers de kilomètres ensemble, Guillaume et moi, sur une moto qui s'appelle le Ural, qui est une moto qui a des allures de Deuxième Guerre mondiale, militaire, sur laquelle je monte. Et puis, Guillaume, lui, prend place dans le sidecar, donc la voiturette juste à côté.
Ouais.
Et donc, on a parcouru comme ça cette région du Québec. On a fait ensemble réaliser 25 activités, parfois extrêmes, ultimes, d'autres fois plus relaxantes.
Des activités sportives?
Des activités sportives, oui, des activités de plein air également. Mm-hmm. Je vous en nomme quelques-unes. On a fait du rafting ensemble, par exemple, dans l'épisode qui est en cours
la semaine dernière, là,
ouais. On fait du rafting, de l'équitation. On est dans le centre du Québec, en Mauricie. On est allé à Rivière-du-Loup faire de l'avion en haute voltige également. On est allé au spa aussi. On a fait du deltaplane motorisé.
Wow.
On a fait de la tyrolienne. On est allé aussi assister à une activité culturelle à Québec dans un bar où il y avait de la musique traditionnelle irlandaise. Donc, vraiment des activités là diversifiées.
Comment vous les avez choisies, ces activités-là,
Frédéric? Ces activités-là, nous, on les a pas choisies.
Okay.
On nous les a proposées en nous disant on va vous faire vivre une aventure et ça fait partie de l'aventure. Comme c'est une série documentaire, on est dans la vérité de A à Z, mis à part le fait qu'il y a des caméras qui nous suivent, là, puis qu'on réalise deux, trois activités dont on réaliserait peut-être une seule là, dans un été, mais là, on en vit à la puissance 10. Là.
Est-ce que vous connaissiez avant, Guillaume et toi?
Guillaume et moi, on avait eu l'occasion de se rencontrer dans le cadre d'une activité, comme vous savez peut-être, je suis porte-parole de la Fondation des aveugles du Québec.
C'est bien de le rappeler, c'est une des choses qu'on n'a pas dites.
Ah.
On l'aurait dit à la fin.
Donc, et c'est là, Luc, qu'on a eu la chance aussi de parcourir, d'être sur le circuit, je pense que c'était à Saner, où on a détruit justement d'autres véhicules.
Oui, oui. Et le nôtre aussi, le nôtre.
Oui. Donc, c'est là que j'ai appris à connaître Guillaume, parce que Guillaume était aussi dans le cadre de cet événement-là de levée de fonds pour la Fondation, donc la course aveugle extrême. Et par contre, j'étais pas copilote de Guillaume, mais j'ai appris à le connaître là. Puis par la suite, on a fait une autre activité ensemble de levée de fonds. Ça se passait dans le Vieux-Montréal, à la Décalade. Et puis on a descendu comme ça un édifice de 16 étages à la verticale. Puis là, ça nous a donné un peu le feeling de ce qu'on allait vivre quelques semaines plus tard dans le cadre de cette émission-là, le point de vue sur Ami Télé.
Parce que Guillaume aime ça. On sent qu'il aime ça. On dirait qu'il est game.
Oui, parce que Guillaume, on le découvre à travers les épisodes. Puis j'ai appris à mieux le connaître. Il y a vraiment une amitié qui s'est développée avec Guillaume au fil du temps. Ça s'est étalé sur plusieurs semaines. Puis j'ai découvert quelqu'un qui aime la témérité. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui, avant d'avoir... Bon, je peux raconter rapidement...
Oui, oui, justement, j'allais te demander...
Dis-nous qui cassait des gueules.
Qui est Guillaume?
Oui, c'est ça, t'as entendu ça, hein?
J'ai écouté la semaine passée, puis... d'ailleurs, c'est le bout, moi, ça a été mon bout préféré de l'épisode, c'est quand, finalement... tu lui demandes de se raconter et il le fait très de façon transparente.
Tu as accès à sa vérité là, sans aucun voile. Ouais. C'est ça qui est phénoménal de cette personne-là. Et c'est issu de son histoire, de son expérience et des choix qui s'en sont suivis du style de vie qu'il voulait vivre, justement. Donc, Guillaume, lui, à l'âge de 17 ans, a eu un accident de voiture sur la route de la métropolitaine à Montréal. S'est endormi au volant, n'était pas attaché et donc a percuté un parapet sur et a fracassé donc le pare-brise. Sa boîte crânienne a été déboîtée.
Ouais.
Et puis son nerf optique a été sectionné au moment de l'accident. Donc, il est ressorti de là avec des séquelles, donc a perdu la vue, traumatisme crânien, paralysé, semi-paralysé du côté droit, puis a perdu l'odorat.
Okay.
Avant d'avoir cet accident-là, c'est ce qu'on a découvert dans l'épisode numéro 2, c'est que Guillaume était justement, lui, il le dit lui-même, du côté noir un peu plus, c'est un délinquant. Donc, les gangs de rue, la drogue, la violence, c'est un gars extrêmement... téméraire, qui vivait vraiment sa vie à fond, mais d'un autre côté. Aujourd'hui, ouais. Il vit sa vie à fond, mais on pourrait dire d'un côté où il profite de la vie puis de la chance qu'il a. Il a été déclaré cliniquement mort 2 fois dans sa réhabilitation et tout ça. Et lui, il considère sa chance d'être en vie à chaque moment, chaque instant de sa vie. C'est même pas aujourd'hui, je vais profiter de la vie. Ça fait partie de lui. Il remercie la vie d'être toujours là aujourd'hui. Puis il nous dit, écoutez, moi, je retournerai pas en arrière. Je veux pas revivre le Guillaume que j'étais avant. J'ai compris avec tout ça.
C'est ouais.
quoi ma mission, puis comment je devrais aujourd'hui profiter de la vie.
Frédéric, est-ce que ouais. ça, c'est un des messages de point de vue, finalement, invitant Guillaume à participer comme ça, au jour le jour, dans des aventures folles?
Oui, s'il a été choisi, Guillaume, parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes avec qui avaient la cécité, justement, avec le handicap de la vue. L'objectif de point de vue, initialement, c'était vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle point de vue, hein, c'était d'avoir un couple, 2 compagnons qui partent à l'aventure et qui vivent de nouvelles expériences pour découvrir des nouvelles perspectives, des nouvelles perceptions.
T'étais jamais allé au spa?
J'avais posé la question.
jamais
avec Guillaume.
Oui, avec Guillaume.
C'est ça. Ouais.
C'était une première. Lui, non, était jamais allé
okay.
au spa.
Okay.
Tu dis, Luc... lui, c'est quelqu'un qui a peu voyagé dans ouais. sa vie. Donc, pour lui, tout était très nouveau. Et dans sa réalité, à lui, ben, il ouais. habite chez papa une semaine, chez maman une autre semaine. Il est rendu il y a 27, 28 ans. On sait ce que c'est. Quand
ben, je t'interromps, Frédéric, ouais. parce Vas-y. Que c'était une des discussions que nous avions, Anne-Laure et moi, dans le bureau,
ouais.
où moi, la personne aveugle qui veut pas nécessairement qu'on passe pour des héros ou pour des nonos, je disais... Ben là, courageux quand tu fais du rafting ou courageux quand tu fais de l'équitation. Puis Anne-Laure, elle avait un autre, puis elle même il y avait Christiane qui est recherchiste puis qui travaille aux réseaux sociaux. Puis les deux, vous, les filles, vous aviez un optique complètement différent du mien.
Oui, ben moi je trouvais que en fait à vous écouter, à vous voir, à avoir du fun puis à vivre des choses comme ça qui sortent de l'ordinaire, on vivait aussi ces choses-là par procuration, puis vous aviez tellement du fun, ça, je crois que ça transparaissait, puis ça donne du peps. Moi, c'est ça que j'ai aimé dans ce que j'ai vu.
Puis Christiane disait, Luc, c'est pas tout le monde qui a ton vécu. C'est pas tout le monde qui, disons, a peut-être eu l'occasion de faire du rafting à quelques reprises ou du deltaplane, ou puis ça vaut peut-être la peine de montrer à d'autres personnes qui ont un handicap visuel qui l'ont
c'est
pas
possible.
Fait,
ouais.
ou à des parents qui ont des jeunes enfants handicapés visuels, et ça, tu le sais comme porte-parole de la fac, il faut convaincre les parents, parfois, de laisser aller les jeunes.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais.
T'as tellement raison. C'est que Bon, comme porte-parole de la Fondation des aveugles, je sais que la Fondation travaille très fort justement à offrir des activités aux jeunes de 6 à 25 ans pour leur permettre de briser l'isolement, tu sais, de sortir de chez eux puis de découvrir tout le potentiel qu'ils ont en eux. Donc, on travaille très fort à justement leur offrir tous les outils pour aller chercher du courage, l'estime de soi, à s'émanciper. C'est comme ça qu'on peut outiller les jeunes. C'est la mission de la Fondation. C'est le meilleur qu'on peut leur offrir. Et aux parents, ben c'est à quelque part aussi un répit et des ressources qu'ils n'ont pas nécessairement, en tout cas pas de façon constante.
Mais j'ai l'impression que tu fais la même chose d'un point de vue, mais pour les adultes.
Peut-être. Ouais. Puis je comprends ton point de vue. On va le dire combien de fois, point de vue dans cette entrevue-là. Mais je comprends ton point de vue là-dessus, Luc, parce que ça pourrait d'emblée dire, on pourrait percevoir de ce concept d'émission-là quelque chose comme de l'ordre de la fascination du spectacle ou du freak show qu'on va aller chercher. Pourquoi on va chercher une personne non-voyante pour vivre ça? Puis on est complètement à l'opposé de ça. Je me fais cette réflexion-là au moment où on se parle, tu sais, puis je me dis... on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans un magazine de variété, on est dans un documentaire où on assiste, la caméra est témoin de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Tu sais, moi, dans la vie, là, Frédéric Charpentier, on m'a choisi comme porte-parole de la Fondation des aveugles parce que j'avais pas autour de moi des gens qui vivaient cette réalité-là. Puis j'apprends à la découvrir au fil de mes expériences avec la Fondation, puis j'ai appris à la découvrir au fil de mes expériences avec
Guillaume. Et ça sera... sûrement une occasion pour se reparler, Frédéric, parce que c'est tout le temps qu'on a pour
d'accord.
parler de point de vue. Mais merci beaucoup. Puis c'est vrai que toute l'authenticité dans ce que j'ai entendu, ça transparaît. Puis c'est un show de qualité.
Et
merci.
L'émission s'appelle
Point de vue.
Sur la télé.
À bientôt.
Vous écoutez Accès Libre.
En regardant le fleuve, je ne cherche pas d'épreuve pour appuyer les oui-dire. M'annonçant mon déclin qui viendra de ta main ou d'un appendice bien pire. Je ne chasse pas les papillons, plutôt les illusions. Tu sais si bien mentir. Je disparaîtrai
quand la lune sera pleine.
J'ouvrirai la marée. Je ne serai plus humain.
Je disparaîtrai quand la lune sera pleine.
Je disparaîtrai. Frédéric Garicomeau, Franck Bouchard, bonjour.
Oui, bonjour.
Chargé de projet du groupe CDH.
Effectivement.
Programme PEA annoncé par l'Istério la semaine dernière.
PEA pour petits établissements accessibles.
Effectivement. Ouais.
Mais
effectivement.
Ils ne sont pas encore accessibles.
Effectivement.
C'est vrai qu'ils mettaient la charrue avant les bœufs.
Ils vont le devenir, on l'espère.
Peut-être. Ouais.
Grâce à ce nouveau programme-là. En tout cas, un petit coup de pouce pour permettre d'atteindre cet objectif-là d'accessibilité des petits établissements.
Oui, c'est ça. On est petit à partir de quand, Franck?
À partir de quand? Ben, c'est surtout que ça vise, évidemment, les petits établissements commerciaux, les commerces, style magasins, marché, dépanneur, un salon de coiffure, cabinet de dentiste, des choses comme ça. Donc des petits établissements qui n'ont pas d'obligation, qui ne sont pas visés par les obligations en termes d'accessibilité qu'ont les plus grands établissements, les centres commerciaux, des choses comme ça, qui n'ont pas nécessairement d'obligation légale par rapport au code de la construction du Québec de se rendre conforme par rapport à l'accessibilité. Et donc, l'idée de ce programme-là, c'est de donner un coup de pouce aux propriétaires de ces établissements-là pour se rendre plus facilement accessible pour la clientèle.
En quoi ça consiste alors?
Mais juste avant, j'aimerais ça revenir sur régler le petit, la taille. C'est petit uniquement en taille ou surtout en revenu ou en nombre d'employés? Une salle de spectacle qui est quand même grande peut-elle... C'est pour ça que je me demandais petit.
C'est petit en termes d'espace, effectivement. Plus précisément, on parle, par exemple, d'établissements d'affaires qui ont au plus deux étages,
ouais.
D'un établissement commercial qui a une superficie totale d'au maximum 300 mètres carrés,
d'une
salle de réunion, qui, par exemple, vous parlez d'une salle de spectacle qui pourrait être aussi accessible, c'est-à-dire pourrait avoir accès à ce programme-là, même si on ne parle pas nécessairement d'une petite salle. Ça peut être une salle qui peut contenir plus que quelques personnes, mais disons qu'on vise généralement avec ce programme-là les plus petits établissements.
Ouais. Un petit café-concert ou...
Oui, effectivement. Ça peut être un café, un café-concert, une salle communautaire, un sous-sol d'église même. Donc, vous voyez, c'est le genre d'établissement qui est visé.
Dans notre quartier, en fait. C'est vraiment les commerces de quartier, finalement.
Exactement. On peut penser, effectivement, aux commerces de quartier qui ont pignon sur rue, qui souvent sont pas accessibles. Ça a été documenté dans le passé, c'est bien connu. Pensons, par exemple, à ce qu'a fait le Raplic par rapport à ces problématiques-là. Les enquêtes de terrain qui ont démontré une grande problématique d'accès pour ce type de commerce-là.
En effet.
D'ailleurs, Québec Accessible, ou comment ça s'appelle, le groupe qu'on a reçu il y a deux semaines avec... Pour l'accessibilité au Québec, enfin bref, il y a un mouvement.
Et,
oui, c'est ça, il y a une vague de fond qui est en train de se dessiner justement sur cet enjeu-là. Donc, tant mieux.
Donc, la ministre, en tout cas, a lancé ce programme-là, effectivement, la semaine dernière, dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Ça vise à terme, parce qu'on parle d'un programme qui est prévu pour les 5 prochaines années, avec un budget, relativement modeste, 8 millions de dollars pour les 5 prochaines années, pour permettre le plus possible de ces petits établissements de se rendre conformes par rapport justement au code de la construction en termes d'accessibilité, de parcours sans obstacle, par exemple.
Est-ce que ça veut dire 1,5 million par année ou dès que les 8 millions sont autorisés, finalement, on arrête les octrois?
Bonne question. Peut-être qu'effectivement, il y aura un maximum dans chaque année. Là, je n'ai pas allé vérifier, mais bon, on parle quand même d'un budget de 8 millions pour les 5 prochaines années. Il faut dire que les montants octroyés ne sont pas énormes. On parle d'un maximum de 15 000 $ par établissement. C'est-à-dire que la subvention peut couvrir 75 % des coûts des travaux jusqu'à concurrence de 15 000 $. Donc, c'est sûr que c'est pas un montant extrêmement élevé.
C'est un incitatif.
Mais c'est un incitatif, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y avait pas d'obligation légale pour se rendre accessible, et les incitatifs n'étaient pas très nombreux. Il y avait un crédit d'impôt que les propriétaires pouvaient utiliser s'ils faisaient des travaux, mais c'était très peu utilisé, ce crédit-là, ou très peu connu.
Est-ce que c'est cumulable? avec...
Si un propriétaire a plusieurs établissements, c'est 15 000 $ par établissement. Donc, si vous êtes un propriétaire qui avait 5-6 commerces,
pharmacie.
De vos 5-6 commerces pourra bénéficier d'un montant pouvant atteindre 15 000 $
Intéressant.
Donc, si on parle de travaux, évidemment, on parle de travaux qui vont permettre, par exemple, de mettre une rampe d'accès, d'uniformiser les niveaux de plancher, élargir les portes, installer des ouvre-portes électriques, rendre les toilettes, les salles de bain plus accessibles également. Donc, c'est un peu le type de travaux qui seront admissibles dans le cadre de ce programme-là.
Et à partir de quand on peut...
Alors, le programme débute le 18 juin
ouais,
prochain.
Lundi, hein?
Donc, à partir du 18 juin prochain, les propriétaires pourront faire la demande. C'est la Société d'habitation du Québec, l'SHQ, qui a le mandat de gérer ce programme-là. Donc, à partir de ce moment-là, à partir de ce 18 juin prochain, donc, on pourra commencer à recevoir les demandes pour avoir droit à cette subvention-là, à cette forme d'aide pour permettre l'accessibilité des établissements.
Et on peut faire appel à ce programme tout en faisant valoir les crédits d'impôt dont on a droit?
Faudrait voir. J'avoue que là, faut voir. Évidemment, l'un et l'autre ne sont peut-être pas compatibles.
Ah.
C'est sûr que les crédits d'impôt, ce sont des dépenses que l'entreprise a faites d'elle-même, de ses propres revenus, qui peuvent être crédités. Si par exemple,
le 25%, donc.
Au-delà de 15 000 $ cette portion qui va au-delà de 15 000 $ mais qui aurait reçu une subvention, mais qui aurait eu des travaux au-delà de ce montant-là, peut être effectivement faire l'objet d'un crédit d'impôt.
Oui, parce que ce que je comprends, c'est qu'on ne se rend pas nécessairement jusqu'à 15 000 en ce sens que si le 100% est 12 000 $ on va t'en donner autour de 8 500, 8 600, soit 75%. Donc, il reste toujours un 25% déboursé de la poche.
Exactement. Ouais. Il reste toujours un 25%.
C'est là où il pourrait avoir des discussions.
Faire l'objet d'un crédit d'impôt dans ce contexte-là.
Ouais.
Effectivement.
Maintenant,
donc, c'est toute mesure quand même... qui est modeste, mais quand même un pas qui va peut-être permettre de solutionner les problèmes d'accessibilité de ce type de commerce-là, qui est souvent des commerces qui sont souvent fréquentés. Là, qu'en n'étant pas accessible, ben ça pose des problèmes pour les personnes. Même à la limite, la Commission des droits de la personne a dit que ça peut être discriminatoire. Donc, c'est sûr que c'est une chose qui est à souligner.
Ouais.
Moi, ma crainte, ou en tout cas, là où je me questionne, c'est OK pour le cabinet de dentiste, le particulier, mais disons une bannière de pharmacie où j'essaie de penser là disons peut-être un gym ou qui en a plusieurs, puis tu dis, il me semble qu'ils ont tellement d'argent ces gens-là, est-ce que je dois encore les aider à m'accueillir?
Mais c'est un incitatif, donc
je comprends.
On peut comprendre effectivement que pour des grands propriétaires, peut-être que s'il y a une certaine, comment je dirais-je, injustice,
ouais.
En tout cas, il y aurait les moyens, effectivement, peut-être de faire ça. Le programme ne fait pas de discrimination spécifique par rapport à ça, mais effectivement, le programme peut-être vise davantage, en tout cas, veut inciter davantage les plus petits propriétaires à rendre ça plus accessible.
De toute façon, les CPE offrent les CPE offrent la même subvention à tout le monde, que tu sois riche ou pas, si tu as des enfants CPE.
Donc, tu ne payes pas le même prix selon ton revenu, par contre.
Ah, c'est vrai que ça change un peu.
Mais sinon, Franck, est-ce que vous savez quel va être le programme de communication, enfin le plan de communication autour de ça, parce qu'il faut encore être au courant?
Ben, effectivement, alors, premièrement, l'annonce a été faite la semaine dernière, donc il y a un communiqué de presse qui a circulé, mais l'information pour pouvoir avoir accès au programme est, lui, déjà disponible sur le site web de la SHQ, de la Société d'habitation du Québec, donc on pourra mettre les liens à la fois pour le communiqué et pour la SHQ, peut-être sur le site web de Canada.
Mais c'est quand même intéressant ce que tu dis, Anne-là, à savoir, la subvention peut être là, mais il faut qu'il y ait volonté, et pour que la personne veuille, il faut qu'elle sache... que ça existe.
On va souhaiter que la SHQ et d'autres organisations, telles que le PHQ ou autres, fassent connaître davantage ce programme-là.
Ouais.
Pour l'instant, c'est déjà sur le site web de la SHQ.
Et on va mettre un lien.
Mettre un lien, mais effectivement, il faut le faire savoir aux propriétaires qui ne sont pas nécessairement incités à aller sur le site web de la SHQ.
On peut présumer que Mme Thériault, même si je pense qu'elle ne revient pas, va quand même dire à d'autres, parlez donc de cela dans la campagne électorale. Donc, ben, ça va quand même être dit.
C'est un peu, évidemment, un élément à mettre de l'avant.
Ça donne bien.
Bilan pour le Parti libéral, ouais. Dans le terme de la campagne, quelles sont les actions qui ont été posées qui visent des personnes en situation de handicap? Ben, ça, c'en est une.
Ouais. Bon, merci,
on verra à terme dans 5 ans si ça aura donné les résultats escomptés, mais à tout point, on a quelque chose là à proposer.
Un petit plus. Merci beaucoup.
Ben, ça me fait plaisir. Au revoir.
Au revoir.
T'es un peu drôle, Anne-Laure.
Pourquoi?
Tu me parles, j'ai le casque d'écoute, le volume au maximum.
Je me parle toute seule.
Ben oui, tu m'intéresses tellement pas, là. It ain't over till it's over de Lenny Kravitz. 91, nous dit Jean-Sébastien. Ça sonnait quand même...
C'est ça, je me trouvais vieille.
Ouais.
Ouais, en tout cas, j'ai écouté beaucoup.
Mais bon, qui a dit « It ain't over till it's over », c'est entre autres Yogi Berra. Et on reste dans la thématique du sport parce que notre livre aujourd'hui... traite de sport.
Exactement, c'est Mr. Playoff, l'histoire de Daniel Brière de Martin Leclerc, publié en 2007 aux éditions Urtubiz. On est sur le point de terminer l'enregistrement, donc un nouveau livre prochainement accessible donc en version audio éditée par Vues et Voix. On écoute la quatrième de couverture.
Il est bon, mais il est bien trop petit pour se rendre jusqu'à la Ligue nationale. Entendu mille fois, cet avis définitif sur son avenir n'a jamais découragé Daniel Brière. Bien au contraire, ses mots l'ont incité à se surpasser à chaque match de son parcours mineur puis junior majeur. Plus tard, une fois atteint son objectif ultime de jouer dans la LNH, sa route n'a pas été plus facile. Cependant, animé d'une détermination sans faille et d'une vive intelligence du jeu, le Gatinois a connu une carrière exceptionnelle, devenant au passage l'un des plus féroces compétiteurs de l'histoire des séries éliminatoires. Avec la plume complice de Martin Leclerc, il retrace dans cet ouvrage son étonnante éclosion vers le statut de super-vedette. Sa venue controversée en 2007 avec les Flyers, qu'il préfère alors aux Canadiens, et son passage à Montréal en fin de carrière, sans oublier d'abord sa vie familiale et son rôle de père. Une autobiographie tantôt hilarante, tantôt émouvante, toujours inspirante, qui nous fait pénétrer avec bonheur dans les coulisses du hockey d'aujourd'hui et le quotidien d'un athlète professionnel de haut niveau. Martin Leclerc est un journaliste renommé qui a tour à tour assuré la couverture du baseball majeur, des Jeux olympiques, de la boxe professionnelle, du championnat du monde de F1 et de la Ligue nationale de hockey pour le Journal de Montréal. Il occupe depuis 2011 le rôle de columniste à Radio-Canada Sport. Ses deux premiers ouvrages, Game Over, l'histoire d'Éric Gagné et Confessions sportives, ont été sacrés best-sellers.
Luc, tu as écouté Confessions sportives
la semaine dernière. J'ai beaucoup aimé, j'ai appris des choses. Parce que ce sont des petites histoires dont on n'entend pas parler, autant des entraîneurs, des joueurs, et ça ne se limite pas au hockey.
Mm-hmm. Donc, à écouter aussi avec un livre audio adapté.
Ouais.
Parce que si vous présentez une déficience visuelle ou une limitation qui vous empêche de lire un livre imprimé, eh bien, inscrivez-vous au service du livre adapté du Québec par l'entremise de BANQ. Et tout de suite, nous pouvons écouter le prologue.
Prologue. Pourquoi certains jeunes joueurs parviennent-ils à se tailler une place dans la LNH alors que d'autres, tout aussi talentueux, n'y arrivent jamais? Une vieille croyance veut que la réussite d'un grand nombre de hockeyeurs professionnels repose en partie sur la chance et que ceux-ci doivent se trouver au bon endroit, au bon moment, pour obtenir une véritable occasion de démontrer leur savoir-faire. D'autres pensent qu'il leur faut simplement être en mesure de saisir les opportunités, aussi minces soient-elles, lorsqu'elles leur sont offertes. On pourrait débattre longtemps là-dessus. Ce que je sais, c'est que ma carrière dans la LNH s'est jouée en l'espace de 54 secondes, le 28 décembre 2001, alors que je disputais ma cinquième saison dans l'organisation des Coyotes de Phoenix. Et tout ce qui s'est produit durant ces fameuses 54 secondes fut le résultat d'une cascade d'événements déclenchés un an et demi auparavant par le propriétaire des Coyotes, Richard Burke. L'organisation des Coyotes de Phoenix m'avait réclamé en première ronde au repêchage de 1996, 24e joueur au total, après m'avoir vu inscrire 126 buts et 183 passes, 309 points, en 149 matchs dans l'uniforme des Voltigeurs de Drummondville. Page 12. Avant d'entreprendre ma carrière professionnelle à l'automne 1997, la seule adversité que j'avais rencontrée dans le monde du hockey était le scepticisme de ceux, et ils étaient nombreux, qui me jugeaient trop petit pour franchir les étapes des niveaux Bantam AA, Midget 3A et Junior majeur. Sauf qu'à chaque fois, j'avais bénéficié du temps de jeu nécessaire pour régler cet insignifiant débat sur la patinoire. Dans les rangs professionnels, les enjeux étaient toutefois différents et les facteurs échappant à mon contrôle étaient nombreux. Après une première excellente saison au sein du club-école de Springfield, 36-56-92, en 68 parties, dans la Ligue américaine, j'avais bien fait à mon second camp d'entraînement à l'automne 1998. Le directeur général des Coyotes, Bobby Smith, avait alors pris la décision de me faire une place dans le LNH. Or, Malgré le fait qu'on m'ait fait disputer 64 matchs, mon temps d'utilisation était très limité et je n'avais pas véritablement de rôle précis au sein de la formation. Dans le dernier segment de cette saison, 1998-1999, on m'avait donc renvoyé dans la Ligue américaine. Avant l'instauration du plafond salarial, la LNH était bien différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Les équipes étaient très majoritairement composées de vétérans et les dirigeants accordaient la plupart du temps le bénéfice du doute aux joueurs qui avaient cumulé plusieurs années d'ancienneté. Même si un jeune joueur performait mieux qu'un coéquipier plus âgé, le vétéran obtenait souvent 3 ou 4 chances de sauver son poste avant d'être définitivement remplacé.
J'aime toujours quand les producteurs font ça, on enlève tout, on dépouille, puis on garde, bon, dans ce cas-ci, c'était le piano. C'est fou, hein? L'habit fait pas le moine. Des Montréalais, c'est tellement pas un son montréalais habituel, et c'est nouveau, alors que on pourrait dire un son des années 70.
Ouais.
C'est The Brooks avec Priceless. On a fini, alors?
Oui, on a fini. Ouais. Et merci à tous nos invités d'avoir été à l'émission aujourd'hui et pour la semaine.
Merci Jean-Sébastien.
Oui, merci Jean-Sébastien, Christian, notre cher metteur en onde et choix musicaux. Christiane Campagna aux communications.
Benoît.
Luc Fortin. Benoît, Racette à la recherche et à la réalisation. Bonne semaine!